Syrie, la politique cynique et brutale de l'impérialisme. Après la victoire à Alep Est du régime de Bachar el-Assad aidé par la Russie, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 30 décembre dernier en Syrie. Des pourparlers de paix se sont tenus le 23 et 24 janvier à Astana, au Kazakhstan, parrainés par la Russie, l'Iran et la Turquie, sans plus de résultats que les précédents. L'ONU, et avec elle les États-Unis, avaient prévu d'organiser une nouvelle réunion à Genève le 8 février, qui a été finalement repoussée à la fin du mois. Parmi les milices opposées à Bachar el-Assad participant aux négociations d'Astana, se trouvaient des groupes dits « rebelles », comme le groupe salafiste Jaïch al-Islam, l'armée de l'islam, qui, selon le chercheur Ziad Majed, citation, est une formation salafiste qui peut aller d'un extrémisme au regard du contrôle social envers les femmes jusqu'à un certain opportunisme utilitaire, notamment envers le régime, la bourgeoisie de Damas et l'Occident. Fin de citation. Le Figaro, 18 octobre 2016. C'est un dirigeant de Jaïch al-Islam, Mohamed Halouch, qui était le chef de la délégation regroupant les opposants à Assad. Dans ces négociations se côtoyaient donc essentiellement des représentants de bandes armées djihadistes d'un côté et ceux du régime de l'autre. Les aspirations du peuple syrien, telles qu'elles se sont exprimées lors du printemps arabe de, entre guillemets, de 2011, ne pouvaient pas y être représentées. De plus, si les combats et les violences ont cessé à Alep Est, la guerre, qui a déjà fait plus de 400 000 morts en 5 ans et provoqué le déplacement de 12 millions de réfugiés, dont 4 millions vers l'étranger, se poursuit toujours dans plusieurs parties du territoire syrien. Les combats à Wadi Barada, à 15 km de Damas, entre d'un côté la milice du groupe Fatah al-Sham, nouveau nom d'Al-Nosra depuis sa rupture avec Al-Qaïda, et de l'autre les forces armées de Bachar el-Assad, se seraient finalement soldées par une victoire de ces dernières. Mais la bataille continue dans l'est du pays, à Deir ez-Zor, et dans le nord à Al-Abab, où les forces du régime syrien, appuyées par des frappes russes d'un côté et l'armée turque de l'autre, cherchent à encercler Daesh. Dans la région d'Idlib, les combats font rage opposant l'armée d'Assad et les milices rebelles qui, en parallèle, se font la guerre entre elles. Des raids aériens opérés par le régime contre la ville d'Idlib ont fait 30 morts le 7 février. Le peuple syrien est toujours pris sous les feux croisés de la dictature, des milices djihadistes dont celle de Daesh, et des bombardements des puissances impérialistes et de la Russie venues au secours du régime syrien à l'automne 2015. La responsabilité de l'impérialisme dans le chaos syrien. Les États-Unis et les pays de la coalition internationale qu'ils ont constituée d'une part, et la Russie et les autres alliés du régime syrien, dont l'Iran d'autre part, se renvoient la balle en accusant les autres d'être responsables de la situation. Mi-décembre, Obama dénonçait, citation, « l'assaut sauvage mené par le régime syrien et ses alliés russes et iraniens sur la ville d'Alep ». Fin de citation. Le régime syrien et la Russie sont effectivement en grande partie responsables de la violence des bombardements qui ont littéralement rasé Alep Est, atteint les hôpitaux, obligé la population à se terrer dans des caves. Mais venant d'un dirigeant de l'impérialisme américain, une telle déclaration est surtout hypocrite et cynique. Tous les dirigeants des pays impérialistes jouent les blanches colombes. Mais l'évolution qui a conduit au chaos en Irak, puis en Syrie pour se répandre au Yémen, menaçant d'autres pays de la région comme la Jordanie ou le Liban, est le résultat d'une politique qui n'hésite pas à s'appuyer sur les forces les plus réactionnaires, à diviser pour régner, jusqu'à déclencher des guerres. Depuis un siècle, le Moyen-Orient n'a jamais vraiment connu de situation stable. L'impérialisme américain et les puissances de second rang, dont la France, ont cherché constamment et par tous les moyens à imposer leur domination politique et la mainmise sur les richesses de cette région pour le compte de leurs capitalistes. La guerre menée en 2003 par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre l'Irak de Saddam Hussein eut des conséquences catastrophiques qu'ils n'avaient pas envisagées. Elle déstabilisa encore plus la région, libérant les forces les plus rétrogrades et ouvrant la voie au développement de milices de diverses obédiences, dont Daesh. Lorsqu'en 2011, le « printemps arabe » entre guillemets atteignit la Syrie, avant de déboucher rapidement sur une guerre civile, l'Irak, à sa frontière, subissait déjà depuis plusieurs années la guerre entre milices religieuses ou ethniques. Les grandes manœuvres de l'impérialisme américain en Syrie depuis 2011. En mars 2011, alors que le régime de Bachar al-Assad réprimait avec férocité les manifestations qui réclamaient son départ, Obama l'appela à se retirer, citation, dans l'intérêt du peuple syrien, fin de citation, et condamna sa dictature. Mais dans le passé, les dirigeants impérialistes n'avaient pas toujours condamné le régime des Assad, père puis fils. Il leur fut même souvent utile, comme en 1976 au Liban, où le régime syrien était intervenu pour empêcher une victoire des milices de la gauche et des Palestiniens sur celle de l'extrême droite phalangiste. De même, lors de la guerre du Golfe en 1991, Hafez el-Assad, le père du président syrien actuel, s'engagea du côté des États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein. L'attitude de la France, l'ancienne puissance mandataire, 1920-1941, oscilla elle aussi entre des périodes de rapprochement et d'autres de froid diplomatique qui n'empêchaient pas la collaboration avec le régime syrien. Le président français Jacques Chirac fut le seul dirigeant occidental à se déplacer aux funérailles d'Hafez el-Assad, 1930-2000. Même dans les moments de froid, les affaires continuèrent. Ainsi, en 2005, alors que Chirac déclarait vouloir, citation, « faire rendre gorge » fin de citation, à Bachar el-Assad, le rendant responsable de l'assassinat de son autre ami, le dirigeant libanais Rafik Hariri, la France lui livrait, dans le plus grand secret, deux hélicoptères militaires et fournissait à son entourage un système de communication sécurisé grâce au service d'Alcatel. En juillet 2008, Sarkozy invita Bachar el-Assad à Paris au défilé du 14 juillet, déclarant « entamer » citation, de nouvelles relations, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, des relations structurelles stratégiques. Fin de citation. Si ce régime posait un problème à l'impérialisme, cela ne tenait certainement pas à son caractère dictatorial, mais à l'indépendance relative que la dictature syrienne pouvait afficher à son égard grâce aux liens économiques et diplomatiques établis dès les années 1950 avec l'URSS. Lors de l'éclatement du « printemps arabe » de 2011, les États-Unis auraient certainement souhaité que la contestation à Bachar el-Assad aboutisse à son remplacement au profit d'un pouvoir politique plus coopérant. Mais en Syrie, l'impérialisme n'avait pas de lien ancien avec la hiérarchie militaire lui permettant de s'appuyer sur elle, comme il l'avait fait en Tunisie ou en Égypte. Il ne pouvait compter sur aucune force capable de gérer une transition vers un nouveau régime stable et allié des puissances occidentales. Le Conseil national syrien, CNS, formé par la Turquie avec l'accord d'Obama en 2011, ne rassembla que des opposants restés en exil sans réel poids dans le pays. De plus, l'exemple de l'Irak était là pour rappeler aux États-Unis les risques potentiels d'un remplacement du régime, celui de Saddam Hussein n'ayant jamais pu être remplacé par un pouvoir stable. La prudence s'imposait donc, et les dirigeants américains et occidentaux furent d'abord surtout des observateurs, cherchant à prévoir la tournure que prendraient les événements. Le régime ne s'écroulait pas. Les manifestations qui se poursuivaient furent violemment réprimées. Bachar el-Assad put s'appuyer sur son armée qui lui restait majoritairement fidèle et timbon. Cependant, La Turquie et l'Arabie saoudite virent dans le conflit la possibilité d'abattre un régime rival. Les gouvernements de ces États encouragèrent les groupes qui auraient pu constituer une alternative aux yeux des dirigeants occidentaux. Début février 2012, le régime syrien usa d'artillerie lourde et de blindés contre des quartiers révoltés. Le printemps syrien se transforma en une véritable guerre entre bandes armées, celle du régime et celle des différentes milices qui se constituèrent. Les groupes d'opposants qui formèrent l'armée syrienne libre, ASL, constituaient un ensemble disparate dans lequel beaucoup étaient issus des frères musulmans, certes moins virulents que bien des groupes djihadistes, mais tout aussi réactionnaires. Mais elle n'eut jamais d'existence réelle. Les groupes djihadistes, suffisamment organisés pour coordonner leurs opérations sur le territoire, et bien mieux armés grâce au soutien des puissances régionales, dominèrent l'opposition armée à Assad. Pour l'impérialisme américain, il n'était pas question d'intervenir directement, alors que son armée venait à peine de se retirer d'Irak en décembre 2011, laissant un pays déchiré par les divisions qu'il avait contribué à créer. Aussi, une politique prit progressivement corps, consistant à soutenir des milices opposantes à Assad, suffisamment pour affaiblir celui-ci, mais pas suffisamment pour leur permettre de l'emporter, afin d'éviter l'autre écueil qu'aurait été l'établissement d'un régime islamiste radical à Damas. Les dirigeants américains laissèrent ainsi les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar, ennemis de longue date du régime syrien, aider financièrement et militairement le front al-Nosra, qui proclamait encore à ce moment-là ses liens avec Al-Qaïda. Ils eurent l'approbation des autres pays impérialistes, dont la France. Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, déclarait ainsi en décembre 2012, citation, « Al-Nosra fait du bon boulot », fin de citation. Les milices djihadistes continuaient à se multiplier, formés de combattants syriens, mais aussi d'autres venus d'Afghanistan, de Libye, d'Irak et d'autres pays musulmans dont le projet politique était d'instaurer une république islamique. Dans cette myriade de milices intégristes islamistes, certaines gagnèrent en influence au fil de la guerre, comme le Front al-Nosra, le groupe Jaïs al-Islam ou encore Harar al-Sham. En fait, la politique de l'impérialisme américain et de ses alliés occidentaux dont la France, contribuait à développer le chaos comme elle l'avait fait auparavant en Irak. De ce chaos naquit Daesh, acronyme arabe de l'État islamique en Irak et au Levant. Si le berceau de cette organisation était irakien, c'est en Syrie qu'elle conquit ses premiers territoires. Les villes de Raqqa et Deir ez-Zor passèrent sous son contrôle dès décembre 2013. Après s'être renforcés en Syrie à la faveur de la guerre civile, les milices de Daesh purent investir de nouveau l'Irak en janvier 2014 et occuper la région d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie. Son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, proclama en juillet 2014 l'État islamique, un califat ayant vocation de contrôler au moins la Syrie et l'Irak. Puis, ces milices lancèrent une offensive rapide en direction des grandes villes irakiennes, déstabilisant le pouvoir irakien. Elles prirent sans difficulté Mossoul, la seconde ville de l'Irak, semant la terreur sur leur passage. L'incendie allumé par la politique de l'impérialisme en Irak, après s'être propagé vers la Syrie, revenait ainsi embraser l'Irak par une sorte d'effet boomerang en menaçant les autres pays de la région. Après avoir causé l'instabilité en Irak par leurs interventions de 2003, après avoir entretenu l'instabilité en Syrie par l'intermédiaire de leurs alliés, les États-Unis se retrouvaient face à un redoutable retour de bâton de leur politique. L'État islamique, EI, proclamé par al-Baghdadi, était en effet incontrôlable. Non seulement il instaurait une dictature barbare sur les populations, ce qui en soi ne posait pas de problème à l'impérialisme, mais il multipliait les provocations à l'égard de l'Occident, comme les décapitations spectaculaires ou les appels à la guerre sainte visant à se rallier l'ensemble des groupes djihadistes opérant au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ou même au sein des pays occidentaux. La progression rapide de Daesh en Irak et en Syrie signifiait pour l'impérialisme le risque de voir éclater tout le Moyen-Orient et le système d'alliance sur lequel se basait son contrôle. Obama décida donc, dès l'été 2014, de forcer les puissances régionales à se rassembler dans une coalition internationale contre Daesh. L'objectif, essentiellement politique, était d'imposer aux différentes puissances régionales de faire l'unité derrière les États-Unis et d'obtenir d'elles en particulier l'engagement de ne plus aider Daesh. La tâche se révéla difficile. Tout en participant officiellement à la coalition, la Turquie et l'Arabie Saoudite continuèrent à agir comme elles l'entendaient. Le régime turc, en particulier, continua encore longtemps à aider les combattants de Daesh, les accueillant sur son sol et leur permettant de passer la frontière avec la Syrie. L'intervention de la Russie tire d'affaire l'impérialisme américain. La situation continuait à échapper à l'impérialisme, le seul effet de la coalition étant des bombardements aériens qui, s'ils étaient une nouvelle catastrophe pour les populations, ne permettraient pas de vaincre Daesh. Les États-Unis ne voulaient pas envisager d'envoyer des troupes au sol. Échaudés par l'expérience de leurs interventions en Afghanistan et en Irak, ils ne voulaient pas risquer de s'enliser dans un nouveau conflit. En Syrie, aucun règlement politique ne semblait possible sans Assad. Le régime syrien se révélait décidément plus solide que prévu et aucune force capable de représenter une alternative politique fiable n'émergeait. L'intervention de la Russie à l'automne 2015 vint en quelque sorte tirer d'affaire les dirigeants impérialistes. La Russie, qui avait dès le début du conflit montré son soutien à Assad, en particulier en mettant son veto à toute intervention de l'ONU, ne faisait pas mystère de ses intentions. Durant le printemps 2015, l'armée russe avait entrepris des manœuvres militaires visibles. De plus, au cours de l'été, Poutine avait multiplié les contacts diplomatiques avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et finalement, le 30 septembre 2015, il lança une campagne massive de raids aériens qui ciblait Daesh, mais aussi et surtout les autres groupes hostiles au régime de Bachar el-Assad. La Russie intervenait pour de multiples raisons, et d'abord la volonté de garder avec la Syrie des liens économiques et politiques datant du temps de l'URSS. À partir de 2003, Poutine avait cherché à augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. En 2008, des contrats avaient été signés avec les Syriens dans divers domaines. En Syrie, la Russie tenait à garder sa base navale de Tartous, la seule dont elle dispose dans la région, devenue base navale soviétique dans les années 1970 sous le gouvernement d'Hafez el-Assad. Mais il y avait également une raison politique, la crainte de la propagation du chaos à la Russie. Le journaliste russe Andrei Gratchev, ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev, expliquait ainsi la position russe. Citation : Il y a une préoccupation justifiée au sujet d'un foyer de tension qui comporterait des perspectives d'aggravation tout à fait imprévisibles à proximité des frontières russes, mais aussi à l'intérieur de la Russie ou dans son voisinage le plus proche, le Caucase, la Tchétchénie par exemple. La crainte russe est celle de voir une sorte d'axe sunnite intégriste qui monterait vers les régions peuplées par des musulmans, pas seulement la Tchétchénie, mais aussi le Daghestan par exemple. Fin de citation. De nombreux djihadistes tchétchènes qui combattent la Russie depuis des années sont par ailleurs présents dans les milices intégristes syriennes, celles de Daesh et d'Al-Nostra. Les États-Unis jouèrent la comédie de l'indignation devant les crimes de Bachar el-Assad, accusant la Russie d'en être complice. Mais en réalité, ils préféraient laisser à celle-ci le soin de tenter de rétablir l'autorité du régime syrien. L'impérialisme américain a défini ainsi sa politique en Syrie au fil des années, au fur et à mesure des changements dans les rapports de force, saisissant ce qu'il pensait être des opportunités et jouant ses alliés les uns contre les autres, manœuvrant en s'appuyant sur certaines forces jusqu'au moment où elles se retournaient contre lui. Un général américain en poste en Irak avait déclaré en 2007 au Wall Street Journal à propos de la politique américaine de soutien aux milices, citation, « Nous chevauchons un tigre. Il nous mènera peut-être où nous voulons aller. » Fin de citation. L'impérialisme américain chevauche plusieurs tigres en Syrie. Quant à savoir si ceux-ci le mèneront où il veut aller, en admettant qu'il le sache lui-même, l'avenir le dira. Syrie et Irak, un terrain d'affrontement pour les puissances régionales. La guerre en Syrie a en effet pris la dimension d'un conflit régional à la suite de l'Irak. Toutes les puissances régionales y interviennent d'une manière ou d'une autre, en particulier au travers des milices qu'elles soutiennent. Toutes poussent leurs pions et s'affrontent. La Turquie, pays frontalier de la Syrie, si elle est hostile au régime d'Assad, n'en a pas moins eu une attitude changeante. Après s'être dit ami d'Assad jusqu'en 2011, le président turc Erdogan l'a combattu en soutenant les groupes armés les plus radicaux comme Fatah al-Sham ou Ahrar al-Sham. Il a aidé les combattants de Daesh en les laissant s'entraîner sur son sol et s'infiltrer en Syrie par la frontière séparant les deux pays, tout en s'engageant dans la coalition occidentale. Mécontent de subir les pressions des États-Unis, Erdogan s'est rapproché depuis peu de la Russie et donc du régime d'Assad. La priorité du pouvoir turc est la lutte contre les Kurdes du PYD syrien qui ont réussi, à la faveur de la guerre civile, à constituer un territoire autonome le long de la frontière turque. L'armée turque est ainsi intervenue en août dernier à Jarablos, l'un des derniers points de passage de Daesh entre la Syrie et la Turquie. Jarablos se trouve dans une zone tenue par Daesh, prise en tenaille entre deux régions kurdes. La Turquie veut empêcher la jonction de ces deux territoires qui aboutirait à unifier la région kurde de Syrie, tenue par le PYD, le Rojava pour les Kurdes. Les États-Unis se sont appuyés sur les Kurdes de Syrie, qui constituent une partie importante des troupes combattant Daesh, les armant même directement. De leur côté, ces mêmes Kurdes de Syrie ont des raisons de se méfier de l'allié américain. Ainsi, celui-ci n'a pas appuyé leur demande de participation aux négociations de Genève en février 2016, pas plus qu'à celle organisée à Astana, cédant en cela aux exigences de la Turquie. En contrepartie de leur participation à la libération de Raqqa, la capitale de Daesh, les Kurdes syriens demandent à être présents à la table des négociations et des garanties sur l'autonomie de Rojava. Les États du Golfe, et en particulier l'Arabie saoudite, hostiles au régime d'Assad, ont fourni aux milices de Daesh, entre autres, de l'argent et des armes. L'Arabie saoudite lutte prioritairement contre l'influence croissante de l'Iran dans la région, bien plus que contre Daesh. Au Yémen, autre pays en proie à la guerre, l'aviation saoudienne continue de bombarder depuis des mois des milices qui sont liées à la minorité chiite saoudienne, tant au point de vue ethnique que religieux. L'Arabie saoudite accuse l'Iran de soutenir la rébellion au Yémen et n'approuve pas l'accord intervenu entre les USA et l'Iran avec qui elle est en concurrence. À la question « Les Saoudiens sont-ils vos amis ?», Obama a répondu dans la revue The Atlantic en avril 2016. C'est compliqué, entre guillemets. C'est compliqué en effet, car les États-Unis ont besoin de l'Iran pour stabiliser l'Irak, d'où leur volonté de mettre de côté les vieilles querelles et de montrer leur bonne disposition en signant l'accord sur le nucléaire de 2015 et en levant une partie des sanctions contre Téhéran. L'Iran, qui soutient le régime d'Assad, avance aussi ses pions en Syrie au travers du Hezbollah libanais, mais il intervient surtout en Irak au travers de ses milices et des unités des gardiens de la Révolution, les troupes d'élite iranienne. Les États-Unis voudraient cependant éviter de mécontenter l'Arabie saoudite, leur allié depuis toujours, et continuent de soutenir les bombardements saoudiens au Yémen. Le conflit est présenté comme opposant les pays de l'axe chiite, dont l'Iran, à ceux de l'axe sunnite, Arabie saoudite, Qatar et Turquie. Mais ce qui oppose les puissances régionales n'est évidemment pas la doctrine religieuse. Derrière la dimension confessionnelle utilisée par les différents régimes pour s'assurer le soutien de leur population, il y a des conflits politiques qui recouvrent aussi des conflits économiques. L'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Irak disposent d'importantes ressources énergétiques et le territoire syrien occupe une position stratégique pour acheminer le gaz ou le pétrole des pays arabes ou de l'Iran vers l'Europe. Derrière la lutte pour la place de première puissance régionale, les classes dirigeantes de ces pays s'affrontent au travers de leurs États pour avoir la meilleure part du pillage opéré par l'impérialisme. Quel avenir pour la Syrie ? 6 ans après le début du « printemps arabe », entre guillemets, et plus d'un an après le début de l'intervention russe, la situation n'est toujours pas stabilisée. La Syrie est aujourd'hui morcelée en zones de pouvoir occupées par les troupes du régime ou celles des différentes milices qui tentent de se tailler des fiefs. Les médias annoncent régulièrement la victoire décisive sur Daesh. Mais la lenteur de la reconquête de la grande ville du nord de l'Irak, Mossoul, lancée depuis le mois d'octobre 2016, montre ce que valent ces annonces. De plus, Daesh, même vaincu à Mossoul, pourrait se renforcer ailleurs, en Syrie par exemple, ne serait-ce que du fait de la fuite des djihadistes vers Raqqa. L'impérialisme a allumé trop de feux et il ne parvient pas à stopper la propagation de l'incendie. Trump, successeur d'Obama à la tête des États-Unis, promet des changements en politique internationale. Dans ce domaine comme dans d'autres, il promet en substance, citation, « qu'on va voir ce qu'on va voir ». Fin de citation. Concernant la Syrie, Trump a répété qu'il voulait « bombarder à crever » entre guillemets l'EI et s'associer avec la Russie et le régime de Bachar al-Assad pour combattre le terrorisme, ce qui ne constitue pas une rupture avec la politique de son prédécesseur, loin s'en faut. Il s'est surtout servi de la guerre qui déchire la Syrie pour alimenter son discours violemment islamophobe. Au Yémen, Trump se montre également dans la continuité d'Obama en lançant les raids contre des milices qui y interviennent, comme celui du 29 janvier qui a fait 60 morts. Décidera-t-il de nouvelles interventions ? Les manœuvres et les interventions militaires de ses prédécesseurs à la tête de l'impérialisme américain, de Bush à Obama, ont créé au Moyen-Orient un véritable chaos. À n'en pas douter, d'autres interventions impérialistes ne feraient que l'aggraver encore. Il reste la certitude que Trump, pas plus que les précédents présidents, ne renoncera à une politique guidée par la nécessité de rester présent dans cette région qui regorge de pétrole et de gaz, pour que les multinationales puissent continuer à faire des affaires profitables, quel que soit le prix à payer pour les populations de Syrie ou d'ailleurs.